Voilà, mais je vais essayer avec le micro à la main. Mais ça fait du bien. Hein? Donc, si vous avez d'autres témoignages, ça fait aussi du bien, dimanche après dimanche, d'entendre les conséquences de notre foi, de notre intercession. Et ça édifie tout le monde. Même si peut-être vous êtes encore en plein dans la lutte et le combat, parce que parfois, il y a des choses qui prennent plus de temps. Hein? On a tous vécu ça une fois dans notre vie chrétienne. On prie pour quelque chose et puis parfois ça vient, on ne sait pas pourquoi, très rapidement. Et puis parfois, bien, faut persévérer, faut continuer. On ne connaît pas le temps de Dieu, mais Dieu est bon et on l'a chanté encore ce matin. Voilà, est-ce que vous êtes toujours preneur de la proposition de Dieu? Le péché couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi, mais toi, domine sur lui. Est-ce que vous êtes toujours preneur? Est-ce que vous êtes toujours avide de découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous? Je crois que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais quand on cherche, on trouve. Et on trouve des choses tellement solides, tellement fortes dans le Seigneur que toute notre vie en est bénie et en porte les conséquences. Donc, tous ces derniers temps, nous avons considéré, au travers, je crois que c'est le 8e message maintenant sur le thème, nous avons considéré ce sujet, comment dominer le péché. Puisque Dieu nous fait cette proposition, ça serait vraiment bête de passer à côté, comme Caïn l'a fait, d'endurcir notre cœur, de descendre le rideau et puis de s'éloigner de la présence de Dieu. Dieu fait cette proposition à Caïn, c'est pas pour se moquer de lui, c'est pas pour l'entraîner dans une impasse. C'est parce que Dieu a les moyens de nous rendre capables de dominer le péché. Et il est capable de nous faire comprendre comment nous pouvons y arriver. Et nous avons considéré, lors du dernier message, trois choses qui se sont produites derrière le voile. On ne les voit pas, mais elles se sont produites. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment saisir par la foi. Il y a des choses que nous n'avons pas vues, parce que ça s'est passé de l'autre côté du voile, mais les répercussions dans notre vie sont réelles. Et c'est parce qu'elles sont réelles dans notre vie que nous savons que les choses se sont passées. Imaginez que Jésus ait raconté toutes ces choses, ou les disciples par la suite aient raconté toutes ces choses, et que ça soit de la pure imagination. Rien ne se serait produit dans nos vies. Mais parce que Jésus a effectivement annulé le document, la loi qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions, il l'a supprimé en la clouant à la croix. C'est-à-dire que nous ne sommes plus obligés d'être sous la loi. Vous pouvez continuer d'être sous la loi. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer d'accomplir la loi. Bon voyage. On n'y arrive pas. Et c'est pourquoi Jésus l'a accompli, lui, parfaitement. Et il a pris sur lui cette loi, il l'a accompli et il l'a supprimée. Supprimée. Il l'a clouée à la croix. Nous ne sommes plus obligés d'être sous la loi. La deuxième chose que Jésus a fait, c'est qu'il a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a livrés publiquement au spectacle. C'est quelque chose qui s'est passé dans les cieux, nous on ne l'a pas vu. À l'époque des Romains, quand les Romains, un général romain, avait gagné une guerre, il transportait derrière lui tous les prisonniers de guerre. Et il traversait la rue de la capitale en disant « Voyez ce que j'ai fait !» Et Jésus, dans les cieux, a désarmé ses pouvoirs, ses autorités spirituelles. Et ça a dû être un spectacle incroyable pour les anges de voir ces démons, ces esprits méchants, ces esprits contaminés, enchaînés par Jésus et marcher derrière lui, vaincus par la croix de Jésus. Amen. Et la troisième chose que nous avons vue, c'est que Jésus est entré dans le sanctuaire, pas fait de main d'homme, mais dans le sanctuaire céleste. Ça non plus, on ne peut pas le voir avec les yeux. Mais il est entré pour comparaître devant la face de Dieu avec son sang. Et ça, c'est quelque chose qui a fait que Dieu a pu ensuite nous pardonner. Il est entré dans le ciel même où il s'est présenté maintenant devant Dieu pour nous. Donc voilà, ça s'est passé derrière ce voile, derrière. Mais parce que ça s'est réellement passé, tu en vois des conséquences dans ta propre vie. On n'est pas en train de se dire tous les matins, oui, je suis chrétien, absolument, il faut que c'est... Non, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Je n'ai pas besoin de me le répéter chaque jour. Je vois les effets de toute l'œuvre de Jésus à la croix et c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. C'est juridiquement valable et valable éternellement. Dans Romains au chapitre 5, verset 18 et verset 19, il est dit « Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus justes. Jésus est l'aîné des frères, il est le Seigneur des seigneurs, il nous a obtenu cette libération de la loi, cette libération du péché, il a payé le prix et nous sommes rendus justes. Ça veut dire que nous pouvons ressortir du tribunal alors que nous étions accusés, hein. La loi nous accusait. Elle nous disait, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu parce que tu n'es pas saint. Mais nous pouvons maintenant ressortir du tribunal avec cet acte qui nous justifie. Parce que Jésus est entré avant nous. Jésus est entré avant nous avec son sang. Et il est intéressant de voir dans la parole qu'il est dit dans Jacques 2,19, les démons croient aussi et ils tremblent. Essayez d'imaginer ce qui s'est produit dans ce monde invisible. Le monde spirituel est au courant de tout ce qui s'est passé. Nous ignorons beaucoup de choses. Quand nous arrivons à la conversion, nous sommes de grands ignorants. Je le disais il n'y a encore pas longtemps, quand on était dans les rues pour Pâques, et que je discutais avec des gens, leur disant, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Pâques? Il y a des gens qui ne pouvaient pas me dire ce qui s'était produit à Pâques. On est dans un monde d'ignorance au niveau spirituel. Mais le monde spirituel sait exactement dans tous les détails ce que Jésus a accompli et les conséquences qui en découlent pour celui qui croit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, à partir de là, si j'adhère à ces choses par la foi, parce que mon intelligence, elle est désarmée, je ne peux pas expliquer ces choses-là. Je peux les lire, je peux comprendre les mots, je peux comprendre le sens, mais à un moment donné, je dois sauter en quelque sorte par la foi et dire, oui, je crois que Jésus est entré, oui, je crois que Jésus a désarmé, oui, je crois que Jésus a annulé. Si tu ne le dis pas par la foi, tu ne fais pas un pas de plus. Parce que tu continues dans ta tête à essayer de comprendre des choses qui ne sont pas compréhensibles pour l'intelligence humaine. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que la foi chrétienne ramène tout le monde au même degré. Tu as peut-être fait l'école primaire, tu as fait tes 9 ans comme tout le monde, comme moi, voilà, moi je me suis contenté de ça. Ou tu as fait peut-être l'université, tu as fait bac plus 8 ou 9 ou 15 ou je ne sais pas combien. Mais quand il s'agit de la foi, tout le monde est nivelé, tout le monde est amené au même point de départ. Si je crois, je commence d'entrer dans ces réalités. Si je crois, je commence de vivre les conséquences de l'action de Jésus, de l'acte de Jésus à la croix. Et ça m'entraîne dans un nouveau statut, dans une nouvelle position. C'est plus comme avant, c'est une nouvelle dimension qui vient s'intégrer dans ma propre vie. Et c'est pour ça qu'en Apocalypse 1, au chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. » Et qui a fait? Parce que Jésus n'a pas fait tout cela simplement pour dire, « Ben voilà, t'es sauvé, hein, essaye de faire au mieux, puis un jour tu seras avec moi dans l'éternité. » Non! Jésus accomplit toutes ces choses. Pourquoi? Pour faire de nous un royaume. Pour faire de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Honnêtement, je ne regarde pas, je ferme les yeux. Non. Est-ce que tu as réalisé à ce jour, non seulement que tu fais partie du royaume, bien sûr, que tu fais partie de l'Église, ça c'est une réalité, parce que tu viens le dimanche, parce que tu as des contacts avec des frères et sœurs peut-être du monde entier qui font aussi partie de l'Église. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Est-ce que tu es entré dans ton statut nouveau? Est-ce que tu es entré dans ton rôle nouveau? En tant qu'être humain, oui, tu fais ce que tu as à faire, à ton travail, ta famille, etc., payer les impôts. Bon. Mais spirituellement parlant, maintenant, je suis appelé à être un sacrificateur pour Dieu. Et je peux vous dire qu'à l'époque, en tout cas, de l'Ancien Testament, on voyait une nette différence entre un sacrificateur et quelqu'un du peuple. Pourquoi? Il avait un habit nouveau, n'est-ce pas? Un habit, un vêtement nouveau, hein? On y reviendra là-dessus. Et puis, il avait des prérogatives particulières. Mais il les connaissait, il ne faisait pas semblant. Il ne se levait pas le matin en me disant, « Ah, oh, ben tiens, aujourd'hui, je pourrais être sacrificateur. » Mais non, il se levait le matin et dit, « Waouh, je suis sacrificateur du Dieu vivant. Waouh, je vais vivre cette journée en tant que sacrificateur. Hein? » Pas en tant que mécanicien, pas en tant que vendeur dans tel et tel endroit, pas en tant que dentiste. Non, bien sûr que ça fait partie. Mais je suis un sacrificateur pour Dieu mon Père. Si vous vous levez demain matin en vous disant ça, votre journée elle sera peut-être différente des autres. Vraiment. Alors, je vais juste m'arrêter sur quelques conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix. On a parlé de ce cheminement, vous vous rappelez ? Voici le chemin, marchez-y. Dans le monde, on tourne en rond, on ouvre un chemin, on dit « Waouh, c'est super, la méditation transcendantale !» Alors tout le monde se met en position pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, on dit « Ouais, bon, ben, ça ne change pas grand-chose. Hein. » Alors on trouve quelque chose d'autre, on ouvre une nouvelle porte, alors on fait de la philosophie, ou bien on fait ceci, ou bien on fait cela. La parole de Dieu nous dit « Voici le chemin, mais marche-y. » Et le chemin, il est pavé, pas seulement de bons sentiments, le chemin, il est pavé d'étapes, des étapes très claires, très précises. On a dit le sentiment de culpabilité, ça ne change pas ta vie. Tu peux te culpabiliser à longueur de vie, ça ne change pas ta vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous offre beaucoup plus que le sentiment de culpabilité. Elle nous dit, si tu te sens coupable, c'est très bien. Parce que c'est certainement qu'au fond de toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ta vie. Elle nous offre la conviction de péché. Le Saint-Esprit vient et nous convainc de péché. Et ça, c'est un moment clé dans la vie d'un être humain. Quand il est convaincu de péché, dit « oui, j'y arrive pas par moi-même ». Je suis, dans ce sens-là, c'est bon de le dire, hein, parce qu'on dit « oui, mais il ne faut pas dire aux gens qu'ils sont nuls ». Mais dans ce moment-là, dites-lui pas qu'il... Non, dites-lui « oui, tu es vraiment nul », s'il le dit. Parce que c'est tellement bon d'être convaincu du péché, de péché. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un être humain qui peut le faire. C'est le Saint-Esprit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et une fois convaincu de péché, vous passez par la confession des péchés. Ça fait tellement du bien de sortir tout ce noir de notre vie et de savoir où je peux le déposer, à la croix. C'est une station d'incinération, la croix. Je me souviens toute ma vie. J'étais à Fribourg encore, j'avais du vélo, et puis j'étais passé par un chemin, puis dans un contour, j'arrive, et qu'est-ce que je vois ? Je vois une... Alors, il y en a beaucoup hein, dans le canton de Fribourg, des croix. Une grande croix posée au bord de la route. Et juste à côté de la croix, un panneau, station d'incinération. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Amenez vos péchés à la croix. Reconnaissez chacun des péchés, vous les amenez à la croix, et c'est ensuite la repentance. Se repentir de notre état naturel de pécheur. C'est pas que j'ai commis quelques péchés, c'est ma fabrique de péchés qui est en moi, qui doit être extraite de moi, hein, par la grâce de Dieu. Et puis ensuite, le pardon des péchés, la conversion. Donc tout ça, ça peut se vivre en quelques minutes, en quelques semaines, en quelques mois, ça peut se faire en triopaque, ça peut... Voilà. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, vous ayez passé par ces étapes. Si tu n'as pas passé par ces étapes, reviens en arrière. C'est comme au jeu de l'échelle, hein. On monte, ouf, tout d'un coup, on se retrouve à la case départ. Pas pour se poser des questions bêtes, mais pour se dire, est-ce que j'ai passé par ces étapes-là ? Voici le chemin, marchez-y. Ensuite, si nous avons passé par ces étapes, ben, il y a une ouverture, vous le voyez ? Hein, on passe des ténèbres à son admirable lumière. On passe au dia suivant. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Donc, on pourrait s'arrêter longuement sur chacun de ces points, mais je voulais juste vous rappeler quelques points essentiels pour que vous soyez sûr que ça a été intégré dans le disque dur nouveau que vous avez reçu de la part de Dieu. Parce que ces choses-là, quand elles font partie de notre être intérieur, ce sont des choses d'une solidité absolue. Ce sont des fondements essentiels. Si je n'ai pas ces fondements, je peux construire une vie chrétienne qui sera continuellement... balotté par les vents. Et... Donc, la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir naître de nouveau. Passer de la loi à la grâce, naître de nouveau, c'est-à-dire que la partie spirituelle de mon être, puisqu'on est fait corps, âme et esprit, va redécouvrir, va s'ouvrir comme une fleur s'ouvre au soleil, à la présence de Dieu. Et souvent, dans les témoignages, on entend dire « Oh, avant, moi, je ne comprenais rien du tout, les histoires de la Bible, ça ne m'intéressait pas. » Et tout d'un coup, on devient des passionnés, parce que c'est quelque chose qui vient nous toucher à l'intérieur. C'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui vient toucher notre être intérieur. Donc, c'est une naissance spirituelle. Tu renais à la vie spirituelle. Hein, vous vous rappelez Nicodème, qui était un homme religieux, qui connaissait certainement la loi sur le bout des doigts, par cœur. Jésus lui dit, mais écoute, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Jésus, il a pas philosophé pendant 2 heures de temps avec Nicodème. Il a dit simplement, ta religiosité, même la connaissance de la loi, ne te suffit pas pour entrer et voir le royaume de Dieu. Donc, il faut naître de nouveau. Mon esprit s'ouvre à nouveau aux choses de Dieu. Et c'est tout le monde spirituel du royaume de Dieu qui commence de se révéler. Ensuite, quelque chose d'extraordinaire aussi. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Parce que si je ne vis pas, moi, une expérience personnelle, je vais devoir vivre de l'expérience des autres. Je serai tout le temps avec des gens qui ont vécu quelque chose. Mais ça ne change pas ma vie. Il faut qu'à un moment donné, dans mon cœur à moi, dans mon esprit à moi, l'Esprit de Dieu témoigne. Oui, tu es devenu un enfant de Dieu. Point à la ligne. Et ça, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas l'inventer. On peut essayer pendant 6 mois de dire « Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. » Ça ne changera rien. C'est l'Esprit de Dieu qui vient dire « Oui, tu es devenu un enfant de Dieu. » Un autre aspect, le voile est ôté. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais avant la conversion, avant la nouvelle naissance, il y a un voile qui est jeté devant nos yeux. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, vaf, le voile est ôté. Peut-être que vous vous souvenez de ce moment-là. Vous avez tout d'un coup saisi que quelque chose s'était passé dans votre vie qui vous permettait maintenant de croire, je dirais, entre guillemets, facilement. Alors qu'avant, c'était une montagne intellectuelle. Mais je ne crois même pas qu'il existe un Dieu. Toute cette création, c'est le fruit du hasard. Hein? Et tout d'un coup, mais non, mais j'étais complètement à contresens. Hein? Le voile est ôté. Hein? Et là, je commence de discerner, parce qu'on sort quand même d'un épais brouillard, hein? Même de la nuit, des ténèbres. Donc ça devient de plus en plus clair. Plus j'avance, plus je progresse, plus les choses deviennent claires. Il a aussi dit que Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Ça, c'est aussi une preuve de quelque chose d'invisible. Jésus m'ouvre mon esprit à l'intelligence, à la compréhension des Écritures. Moi, je me suis... C'est le témoignage de ma femme qui disait, mais pendant des années, je lisais la Bible, mais pour moi, voilà, c'était des histoires bibliques. Ça n'avait aucune incidence dans ma vie. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, suite à sa conversion, elle disait, mais je dévorais la parole de Dieu. Et j'avais l'impression que chaque ligne était écrite pour moi. Chaque mot était écrit pour moi. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. C'est pour ça que quand, avec quelques années d'expérience, on se délecte. Parce qu'on lit un passage et on peut faire un message complet à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Parce que l'Esprit vient et nous conduit d'un endroit à un autre. Et ça nous donne un message complet, une vision complète. Un autre aspect absolument important, hein, il nous donne un cœur de chair. Quelqu'un m'a posé la question lors du dernier message, il m'a dit, « Ouais, mais la loi, qu'est-ce qu'elle devient la loi ? Elle n'existe plus. » Je dis, « Mais bien sûr qu'elle existe la loi. Bien sûr. » Parce que la loi, nous dit l'apôtre Paul, elle est quoi ? Elle est sainte, juste et bonne. Elle continue la loi. Absolument, elle est là. Mais le désir de Dieu, depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'était pas de passer son temps à graver, enfin il l'a fait au travers de Moïse, mais à graver quelque chose sur des pierres. Ce que Dieu voulait faire, c'était graver sa loi dans des cœurs de chair. Waouh, ça c'est quelque chose que Dieu apprécie. Or, la parole de Dieu nous dit qu'on a des cœurs de pierre. Et par la conversion, se produit aussi ce miracle incroyable que personne ne voit physiquement, j'entends. On ne voit pas l'intervention chirurgicale dans ce sens-là. Mais on en voit les effets. Les gens disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais t'es plus le même. Mais dis donc, ton visage, il est rayonnant. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu râles plus comme avant. C'est des changements produits parce que dans ce cœur de chair, ouf, Dieu peut enfin faire descendre sa loi. Et ça devient quelque chose de tellement naturel. S'il devait graver ça dans notre mémoire à coups de marteau et de pic, ça prendrait du temps, hein, et on oublierait. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils obéissent et pratiquent mes lois. Vous vous rendez compte la joie que le Père avait en voyant le Fils, avec son cœur de chair, accomplir sa volonté, le dessein qu'il avait pour sa vie. Dieu, le Père, se délectait quand il voyait Jésus. Il disait, waouh, voilà un fils. J'aimerais en avoir des millions et des milliards des comme ça. C'est tellement agréable d'être avec Jésus. C'est tellement agréable de voir accomplir ma volonté. Et lui est bien parce qu'il accomplit ma volonté. Qu'est-ce qui est mal quand il accomplit la volonté de Dieu ? Levez la main. Voilà, vous pouvez baisser votre main, merci. On est bien quand on accomplit la volonté de Dieu, tout simplement. Dans les détails ou dans les plus grandes choses, peu importe. Hein? Donc la loi, elle est toujours là, elle est toujours là. Tu peux toujours sortir de la grâce et entrer dans la loi si ça ne te convient pas. Les Galates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous marchiez bien alors, vous marchiez bien. Mais pourquoi vous retournez dans la loi? Voilà. Donc eux, ils devaient venir en arrière. C'était vraiment le jeu de l'échelle. Ils devaient redescendre de quelques cases pour repartir en se disant, mais attends, mais est-ce que j'ai vécu ça? Est-ce qu'il y a des conséquences directes dans ma vie? Ou est-ce que je suis toujours en train de douter? Un pied dans la loi, un pied dans la grâce, deux pieds dans la grâce, deux pieds dans la loi. Pouh, ça, c'est pas la vie chrétienne. Hein? Franchement, là, dur, dur. Et je termine là, enfin, par rapport à ça. Et là, nous devenons aussi héritiers de Dieu. Hein? Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Qui est-ce qui a déjà hérité quelque chose dans sa vie? Levez la main. Non, j'ai dit ceux qui ont hérité. Qui a déjà hérité? Bon. Alors, un jour, vous recevez un coup de fil, une lettre d'un notaire ou je ne sais pas quoi. Voilà, vous pouvez venir à mon bureau. J'ai quelque chose à vous transmettre suite au décès ou à un legs ou je ne sais pas quoi. Vous avez fait quoi? Vous avez pris la lettre, vous l'avez lue, vous l'avez déchirée et vous l'avez mis à la poubelle. Et vous avez été faire vos commissions, vous êtes parti en vacances. Vous avez fait quoi? Hein? Non! Oh! Ben voilà! Et qu'est-ce qui s'est passé chez le notaire? C'était pas du bluff, c'était. Hein? Il a donné des sous. Qui est contre? Personne. Mais vous avez fait la démarche. Vous avez entrepris quelque chose pour aller chercher cet héritage. On ne vous l'a pas apporté sur un plateau d'or au pied de votre lit en train de siroter un petit café, non. Vous avez fait, j'ai fait une démarche. La parole de Dieu me dit que je suis devenu héritier de Christ. Est-ce que je fais l'effort d'aller chercher mon héritage? Et c'est quoi mon héritage? Voyez, ça n'arrête pas. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. C'est pour ça que la vie chrétienne est quelque chose de passionnant. On ne peut pas stagner dans la vie chrétienne, même si on passe des fois par des étapes plus dures que d'autres, ça c'est clair. Mais j'entends, c'est une suite de démarches continuelles. Alors, tous ces changements se produisent souvent dans une atmosphère, comme je l'ai déjà dit, assez sentimentale, assez émotionnelle. On est un peu euphorique, on est plein de... Je vous ai déjà vu, hein, les gens qui se convertissent, en général, ils pleurent, et ils sentent des petites chaleurs dans le dos. Je ne sais pas, toutes sortes de choses comme ça. Ok, c'est bien, c'est super, mais vous avez remarqué que ça ne dure pas. Parce que Dieu est un père avec nous. Lui ne veut pas des bébés spirituels pendant 60 ans. Le but de Dieu, c'est de faire de nous des hommes et des femmes faits dans le Seigneur, qui passent par les stades de la petite enfance spirituelle, de l'adolescence et de l'homme fait. Donc Dieu, il veut bien un petit peu nous chatouiller sous les pieds, nous faire des guilis-guilis, voilà, être... Mais à un moment donné, il faut se lever. Et on est tellement fiers, on ne vous l'a pas dit tout à l'heure quand on parlait de naissance, il y a aussi un nouveau petit pilecki sur la terre. C'est mon fils, Siméon, hein, qui a eu un petit Haydn. Ça sera peut-être un grand musicien, je ne sais pas, Haydn, on verra. Donc, tout ce côté sentimental, émotionnel, joie et tout ce qu'on voudra, euphorie, ça ne suffit pas pour dominer le péché. Parce que le risque, c'est de dire, oh, il faut que je ressente des choses, oh, pour dominer le péché qui couche à ma porte. Niet, pas du tout. Dieu va nous faire vivre des choses sentimentales, émotionnelles, pas de problème. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez devenir fort. Ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir dominer le péché. Je dois donc m'approprier non seulement le pardon de mes péchés, le salut en Jésus-Christ, mais il y a tellement d'autres choses que je dois m'approprier. Est-ce que tu t'es approprié le salut en Jésus? Oui ou non? Si c'est non, c'est non. Hein? Tu peux toujours. Hein? Mais on est sûr ou bien on n'est pas en train encore une fois de se dire tous les matins, est-ce que je suis sauvé? Ouais, hier, j'ai vécu une mauvaise journée, je ne suis peut-être pas sauvé. Aujourd'hui, je vais vivre une bonne journée. Non. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Soit tes péchés sont pardonnés, soit ils ne sont pas pardonnés. Et ça, on le sent. Hein? Quand on porte un sac 200 kilos derrière le dos et puis qu'il n'est plus là, on voit la différence. Okay. Mais je dois m'approprier beaucoup d'autres choses. Si je veux être efficace dans ma lutte, dans mon combat contre le péché, l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 4:21 que je dois me dépouiller. Ce n'est pas enlever des poux, hein, dépouiller. Bon, y en a parfois. Hein. Mais c'est enlever le vieux vêtement qui était le mien jusque-là, enlever le vieux vêtement pour me revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Éphésiens 2, 4. Revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Romains 13, 4. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le salut en Christ me met en position de m'habiller différemment. Puisque la parole de Dieu me dit « revêtez-vous de Christ », ça signifie quelque chose. Ce n'est pas seulement une parole qui est en face de moi, je dis « ah, c'est une jolie parole ça ». J'entre dans cette parole et je m'habille de Christ. Qu'est-ce que ça signifie ? Un habit, ça sert à quoi ? Bon, ça sert à nous couvrir. Mais ça nous définit clairement dans notre fonction, n'est-ce pas ? Dans mon statut. Alors imaginez un cuisinier. Un cuisinier, vous savez comment c'est habillé. Qui décide à un moment donné de changer de métier. Et il va se faire engager à la police cantonale. Et puis on lui remet un uniforme, il le laisse à la maison, puis le lundi matin, il part au travail dans son uniforme de cuisinier. Et puis il met ben, signal, police, il a une belle voiture, et les gens passent. Vous croyez qu'ils vont le prendre au sérieux ? Franchement. Il n'est pas crédible. Donc lui, il est bien policier, il a reçu son mandat, il a reçu son uniforme, juridiquement toujours, et il a la capacité d'arrêter la circulation, d'arrêter des malfrats, etc., etc. Mais dans cet accoutrement, aucune chance. Voyez un cuisinier qui court après quelqu'un, « Halte police, halte police !» Le gars, il se dit, « Mais il est fou, machin !» Il dit, « Téléphone à l'ambulance, là hein !» Prochain dia. Par contre, si vous êtes habillé, revêtu du vêtement du policier, je peux vous dire que personne va enfreindre votre simple mouvement de main. Stop. Vous faites quoi, vous ? Vous mettez les gaz ? Vous klaxonnez, vous dites « Hey, tire-toi, je veux passer !» Vous faites déjà tout petit, votre femme vous engueule déjà parce qu'elle est sûre que vous avez roulé un peu trop vite. Hein. S'il vous plaît, sur le côté, vous obéissez à la lettre, au doigt et à l'œil. Pourquoi ? Mais c'est un être humain comme vous. Mais simplement qu'il a un uniforme et qu'il a reçu un mandat et qu'il remplit son mandat. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il le fait bien. Et il y a des conséquences. Ça marche. Alors quand la parole de Dieu me dit « Habillez-vous de Christ », ça veut dire que tous les chrétiens vont se promener en robe blanche hein, le lundi matin pour aller au travail. Ben pourquoi pas, on pourrait essayer une fois. La parole nous dit « Il m'a revêtu du vêtement du salut et du manteau de la délivrance ». Ésaïe 61:10. Alors c'est vrai que extérieurement, encore une fois, essayez de voir les deux faces de la réalité, hein, la face visible et la face invisible. La face visible, quand vous partez le lundi au travail, vous avez mis des habits à peu près comme tout le monde. Donc c'est pas là que les gens vont se dire, oh ben tiens, il est peut-être chrétien lui. Il y a rien qui. Mais quand on parle de dominer le péché, quand vous êtes habillé de Christ, qui le voit ? Qui le sait ? Le monde spirituel, les ténèbres, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils le savent. Quand il est dit, Caïn, à un moment donné, renfrogné, il quitte, il part loin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a mis un signe sur lui. Il n'a pas mis une pancarte sur la tête ou dans le dos en disant, attention, ne touchez pas, appartient à Dieu quand même. Il a mis un signe. Et ce signe, il n'était peut-être pas forcément visible à l'œil humain, mais quelque chose disait que, là tu ne touches pas. Ce gars, il est pécheur, c'est vrai, il s'est éloigné de la face de Dieu, mais tu ne touches pas. Touche pas mon pote, vous rappelez là les petits signes. Ce n'est pas grand-chose, hein, touche pas mon pote. Ben, c'est exactement la même chose. Si je suis revêtu de Christ, peu importe que mon collègue ne le voit pas tout de suite, mais le monde spirituel le sait, et c'est ça qui est important. Dans la lutte contre le péché, la lutte contre la domination que le péché veut encore avoir sur ma vie, si je suis revêtu de Christ, c'est une évidence. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Et ils tremblent. Rappelez-vous le fils prodigue. Il a pris son héritage, il est parti, il a amené la grande vie, il s'est retrouvé avec les cochons. En général, c'est ce qui se passe. Hein? Alors imaginez l'habit qu'il avait quand il est retourné vers le père. Mais qu'est-ce que le père avait pour lui ? Il dit, écoute, voilà, tu... Hein, y a un petit bout de champ pour toi, un petit cabanon dans le coin, là, et puis tu te débrouilles avec ça. Hein. Tu as voulu me quitter, ben maintenant, hein, tu as subi les conséquences, hein? Ou même pendant 10 ans. Voilà. Ben non. Il lui prépare la plus belle robe. Il veut revêtir son fils qui revient à la maison. Il est tellement heureux de le voir revenir à la maison. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Moi, je crois vraiment que Dieu nous revêt et qu'on se revêt. Plus on se revêt de Christ, plus ça se voit dans le monde invisible et dans le monde visible. C'est une certitude. Moi, je suis parfois étonné. Alors, c'est vrai, hein, quand même dans les milieux chrétiens où on est tout le temps en train de dire « Attention les démons, attention les esprits méchants ». Oui, bien sûr qu'ils sont là. Mais quand ils te voient revêtu de Christ, c'est eux qui disent « Attention, là, il est revêtu de Christ, bouge pas trop hein, ». Parce que vous avez déjà vu, hein, on l'a vécu ici dans cette salle. Hein, quand quelqu'un a cette simple autorité, mais revêtu de Christ, ben, les démons ils tremblent parce qu'ils croient, ils savent ce qui s'est passé. Et rien n'aura échappé dans le monde spirituel. Donc je ne saurais pas pourquoi ça serait à nous de trembler devant Satan et devant le monde spirituel, alors que c'est à eux de trembler. Parce que je suis revêtu de Christ. Parce que Christ est en moi. Amen. Mais vous voyez, quand on dit Amen, et puis que ça vous arrive demain à votre lieu de travail, le fait de le savoir, dans votre intelligence renouvelée, c'est ce qui vous donne l'autorité. Parce qu'à l'instant même, vous savez que vous pouvez entrer dans le combat et la bataille. Résistez au diable et il fera l'un de vous. Donc, moi, je me souviens toujours la première fois à Fribourg, j'en tremble encore, où j'étais tranquillement assis à mon bureau, en train d'écrire, je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, bam, 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 là, bon, ça se casse. Un gars dans tous ses états qui rentre là-dedans, moi, j'étais là, ah, je me demandais ce qui se passait. Et à un moment donné, il prend la poignée de la porte, mais dans le profil de la porte, et il se frappait la tête dans le profil de la porte, pouf, le sang qui giclait. Moi, j'étais là, mais... Et la seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là, c'était de parler en langue. Parce que je ne savais pas quel mot utiliser. Et j'ai commencé de prier en langue, de prier en langue. J'ai dit, oh, je sais pas. D'un coup, le gars s'est calmé. Il m'a regardé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis comme je n'avais pas d'expérience dans ce domaine-là, j'avais bien vécu un ou deux trucs comme ça, bah, j'étais chez Jean-Marc Bigler, qui était tout au début de son ministère de délivrance et tout. Et là, j'ai vu un homme avec sa femme, tout ça, qui accueillait jour après jour des dizaines de personnes qui étaient... Voilà, dans un état second. Et je le voyais dans la simplicité, mais délivrer ces gens, c'était impressionnant. Puis il me disait, mais c'est tout simple. Si tu es revêtu de Christ, tu n'as pas besoin de faire tout un cinéma. Parce que ce monde-là, ils savent que tu es revêtu de Christ. Amen. Voilà, si ça vous arrive, paniquez pas. Hein? Alors parlez en langue au début, comme moi, mais vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une réalité. Et si ça, je ne l'intègre pas dans mon disque dur, dans mon cœur de chair, ben, au moment où j'en aurai besoin, je serai là. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Téléphoner au pasteur. Oh, ouais, cher pasteur, voilà. Alors, c'est bien de téléphoner au pasteur, mais c'est mieux de grandir dans la foi. C'est mieux de passer par ces étapes. Alors, je termine. Alors, j'aimerais aborder avec vous une dernière vérité. C'est quelque chose de très subtil. Je suis sûr que si on faisait un concours ce matin, il y en a beaucoup qui passeraient à côté. Vous avez comme en France, vous avez vu, il y a un changement au niveau des permis de conduire, passer l'examen. Alors, ils ont tout changé. Avant, il y avait 76% des gens qui réussissaient, maintenant, il n'y en a plus que 17%. Tu vois, c'est voilà, question subsidiaire. Voilà. Donc, Paul, dans son épître aux Romains, s'adresse à des chrétiens qui sont à Rome, qui ont vécu le cheminement de la conversion, qui ont certainement compris des choses, mais qui ont un peu des problèmes pour passer à l'action. Vous savez, au niveau théorique, on est tous... voilà, ça va assez bien. Mais quand il faut... transposer la théorie en pratique, là, parfois, c'est normal, hein, on a quelques difficultés. On peut savoir beaucoup de choses, mais pas toujours savoir comment les mettre en pratique. Il y a des gens, c'est des Bibles ouvertes. Ils peuvent vous réciter l'Épître aux Éphésiens par cœur. Mais le but de la parole de Dieu, c'est de pouvoir la pratiquer. C'est qu'elle s'actualise dans ma vie. C'est qu'elle devienne une épée à double tranchant. Pas un petit couteau suisse dans la poche qu'on garde pour couper les champignons seulement. Qu'est-ce qu'il va souligner l'apôtre Paul dans cet épître aux Romains? Ils ont un problème avec le péché. Ils sont chrétiens, mais quand même le péché, il ne couche pas seulement à leur porte, il entre de temps en temps. Puis il entre plus souvent qu'à son tour. Et ça, ça pose des problèmes. Alors la subtilité est que Jésus à la croix, ou l'œuvre de la croix, que Jésus a accomplie dans le ciel, n'a pas mis un terme à l'activité du péché et de Satan dans ce monde. bien vous avez l'impression qu'on est au paradis? Non, hein? Donc le péché et Satan continuent leur œuvre jusqu'au moment où, bon, ça sera point final, hein? Mais pour le moment, ce n'est pas encore le point final. Le péché en tant que principe actif est toujours à l'œuvre. Satan se sert toujours du péché pour essayer soit de nous éloigner de Dieu, soit de nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Or, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul en Romains 6, 11? Alors, Paul dit, regardez-vous comme mort au péché. C'est pas le péché qui est mort. C'est pas Satan qui est mort. Ils ont été vaincus. C'est moi qui dois mourir au péché. Vous voyez la différence? C'est très subtil. C'est moi qui dois mourir au péché. Pas supposer, mais considérer, se comporter comme si je suis mort. C'est prendre cette chose, ce fait au sérieux. C'est une donnée objective. C'est moi qui dois mourir au péché. Ce n'est pas le péché qui va mourir. Ce n'est pas Satan qui va mourir. Ils sont vaincus. Face au péché, vaut mieux faire le mort et pas faire le beau. On va voir un petit film maintenant, je ne sais pas si on peut le passer là, qui illustre un petit peu ce que devrait être notre état d'esprit. Qu'est-ce qu'il fait le chat là? Il fait le mort. Regardez bien. Le chien se dit, mais il est mort ce gars-là. Enfin, vous avez compris ce que ça signifie faire le mort? Ben, c'est faire le mort. Un gros chien à côté de vous, 8 chiens, 10 chiens, tout ce que vous voulez autour de vous. Si vous faites le mort, vous êtes mort. Ça ne l'intéresse pas, vous aussi. Voilà. Et puis après, ben, vous vous taillez, hein, parce que... Quand même. Mais est-ce que vous avez compris cette subtilité? Quand le péché qui couche à ta porte porte ses désirs vers toi, fais le mort. Apprends à faire le mort. Tu ne m'intéresses pas. T'as vu? Oh, Jesus is dead. Il dit, hein, le chien. Ben, il est mort, ce gars. Ben oui, il est mort. Considère-toi comme mort. Et plus tu entres dans cette réalité, plus il va te laisser tranquille, parce qu'un mort, ça n'intéresse pas. Et nous sommes morts en Christ. Alors, dernière chose. Comment est-ce qu'on sait qu'on est mort? Comment est-ce que le monde spirituel peut savoir qu'on est mort? Parce qu'on chante des beaux cantiques? Parce qu'on lit la Bible? Parce qu'on va à l'église de réveil? Quel est le seul acte que la parole de Dieu nous propose pour signifier cette mort? Là, je vous entraîne un peu dans les chemins difficiles, un peu, non? Ça va? Vous suivez encore? Vous verrez, après 40 ans de vie chrétienne, vous allez comprendre. Quel est le seul acte que la parole de Dieu nous offre, nous donne pour signifier la chose? Pas seulement la connaître, pas seulement en parler, pas seulement philosopher, mais la vivre. Comment vous allez mourir? Mais toi, comment tu vas signifier la chose pour que le monde spirituel le sache et le monde visible le sache? Alors, Romains 6, 1. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu veux signifier ce qui s'est passé dans ton cœur, parce que ça, c'est quelque chose de très personnel. Ta nouvelle naissance, pardon des péchés, conviction, tout ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose... Voilà. Maintenant, je vais signifier la chose. Je vais l'officialiser. Je veux que le monde entier, visible et invisible, sache. La parole de Dieu me dit, descends dans les eaux du baptême. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Et tous ceux qui veulent venir avec des théories autres que celles-là, désolé, mais la parole de Dieu me dit que c'est en descendant dans les eaux du baptême que je m'identifie à la mort de Jésus. Dire que je suis rétroactivement placé 2000 ans avant en Christ. Je suis là en Christ. Et c'est lui qui prend les coups, les clous, les fouets, les injures et tout. Et moi, je suis là-dedans, en lui, en Christ. C'est lui qui reprend tout à ma place. Mais je meurs en lui. Je meurs en lui. Tu ne peux pas passer à côté du baptême, je m'excuse, mais c'est la réalité. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Si tu veux vraiment mourir, passe par les eaux du baptême. C'est le seul signe dans le monde spirituel qui vient démontrer que oui, c'est fait. Tu peux être un croyant. Tu peux avoir ta tête remplie de la Bible. Mais si tu n'as pas passé par les eaux du baptême, tu n'es pas mort. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Et peut-être que là, il y a certaines cases à revenir en arrière et se dire, waouh, Est-ce que j'ai accompli cet acte précis pour que le monde spirituel le sache? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un fait réel. Quand on greffe quelqu'un, quelque chose sur un arbre, en principe, c'est pour qu'il puisse tirer sa sève de ce nouvel arbre, n'est-ce pas? Avant, j'étais autonome, j'avais ma propre vie, je vivais de ma vie à moi, j'allais chercher ma sève dans le monde, dans les gens qui m'entouraient. Et ça m'a amené où? Par le baptême, je suis arraché, en guillemets, arraché en ancienne vie, greffé sur Christ, et je vais tirer à partir de ce moment-là ma sève, ma vie de Christ. Nous sommes devenus une même plante avec lui, Romains 6, 5. Je ne peux pas être une même plante avec lui si je n'ai pas été baptisé. Je suis, désolé, mais peut-être que je mets un peu un accent fort là-dessus, mais juste pour qu'on soit conscient que ces étapes, ce n'est pas à bien plaire. Oui, bien sûr qu'on a la liberté de dire, « Oh non, moi je n'ai pas besoin du baptême, je vais à l'église de réveil, c'est bien, il y a de l'ambiance. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement parce que la parole me donne des arrêts, des passages obligés. Et je peux tourner en rond autour d'un passage pendant des années. Et je ne veux pas me soumettre. Et je ne veux pas comprendre. Ok, vas-y, continue. Mais si tu veux dominer le péché, il vaut mieux passer par toutes les étapes. Et une fois que tu as passé par ces étapes, tu sais où tu en es. Tu es vraiment agrégé. Tu reçois ton diplôme, tu es prêt. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est tellement simple, c'est tellement clair. Et alors la dernière image sur laquelle je m'arrête avant de terminer, ça j'ai trouvé fabuleux. Alors c'est vrai, Internet, c'est extraordinaire. C'est un gaillard qui, un professeur d'université de Syracuse aux États-Unis, Sam Van Haken, a combiné sa connaissance de l'art et de l'agriculture pour créer un arbre très spécial. Il a travaillé avec plus de 250 variétés de fruits à noyaux, dont certaines sont très anciennes, entre 150 et 200 ans. Et ensuite, il a travaillé sur des greffes de parties d'arbres pour en créer un capable de produire 40 variétés de fruits à noyaux. Vous voyez ce que ça donne? 40 variétés différentes. Et c'est exactement ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, c'est porter du fruit à la gloire de Dieu, toutes sortes de fruits, et surtout à l'Église. Ça, pour moi, c'est la plus belle image de l'Église. On tire la vie de Christ et puis on produit un fruit très divers, très coloré, très juteux, très goûteux, à la gloire de Dieu. J'espère que vous avez compris que peut-être qu'il y a beaucoup de théories, mais si on comprend bien la théorie, on va bien la pratiquer. Si on ignore la théorie, on va faire du n'importe quoi. Et parfois, dans l'Église, je ne parle pas forcément de la nôtre, mais dans l'Église de Christ, c'est vraiment du n'importe quoi. On se permet n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Moi, je sais, en ayant passé par ces diverses étapes, en ayant dû travailler dur sur certaines, mais à la fin, le résultat, il est là. On sait qui on est. On sait de quoi on est vêtu. On sait quelle est l'autorité qu'on a. On sait qu'on peut sortir dans la rue ou n'importe où. C'était tellement beau encore quand on sortait dans la rue pour prier avec des gens, puis qu'ils étaient là devant nous en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils nous font ces gens-là » Puis nous, très naturellement. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et je pense que ça, c'est un signe du renouveau de l'Église. C'est que ce n'est pas forcément des grandes campagnes d'évangélisation comme du temps hein, de Jean et à l'époque, dans les années 50 ou 60. C'est des chrétiens qui se mettent au travail. Et vous pouvez aller sur YouTube. Je voulais vous amener un petit film ce matin. Malheureusement, il était en anglais. Il faut que je regarde. Mais vous voyez des gens normaux comme vous sortent dans la rue, bonjour, voilà. Ben, comme ce matin, tu as mal et tu vas dire, ben, allez, on va prier pour toi, d'accord? Ça ne vous coûte rien, pas un centime. Et puis vous voyez ces gens, il y en a qui avec des béquilles qui marchaient, tout. Puis, d'un coup, il lève sa jambe, là je suis, tout. En pleine rue, en cinq minutes. Ça, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste. Ça, c'est des gens qui ont compris ce qu'ils étaient devenus, des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Et ils font l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tous ces enseignements que tu nous donnes. Tu es vraiment un Père pour nous, tu nous enseignes. On voit tellement d'enfants qui sont abandonnés aujourd'hui, abandonnés à Internet, abandonnés à toutes sortes de sources contaminées. Seigneur, les parents ne sont pas présents, tu vois ce qui se passe. Et toi, tu es un Père qui, dès le début, nous dit, mon fils, ma fille, tu veux dominer sur le péché? Oui. Ben, je vais t'en donner les moyens. Et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons te bénir ce matin. Alors je te prie vraiment pour qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on ne mette pas ça de côté dans une case de notre existence, mais que ça devienne la colonne vertébrale de notre vie. la bibliothèque de notre vie, le sens de notre vie. Merci Seigneur d'avoir accompli toutes ces œuvres, tous ces actes pour que nous puissions être debout et dominer le péché. À la gloire de ton nom. Amen.